C'est à toi, Franck.
Bien, merci beaucoup. En tout cas, je suis heureux moi aussi d'être avec vous encore une fois ce soir. Parce que bon, même si on ne peut pas se visiter, on a quand même cette chance de pouvoir se voir avec Zoom. C'est une opportunité que nous avons. Il y avait des prières qui disaient, le frère disait tout à l'heure, qu'il y a des endroits dans le monde où les gens sont persécutés, mais il y a aussi des endroits dans le monde où, à cause du Covid, eh bien, ils ne peuvent même plus se réunir parce qu'ils sont trop pauvres pour avoir ce type de connexion que nous avons. Et vraiment, moi, je remercie le Seigneur parce qu'on fait vraiment partie d'un pays où on est béni. Vivre en France, c'est quand même une bénédiction et je remercie le Seigneur pour ça. Voilà, eh bien, ce soir, Dieu a mis dans mon cœur de vous apporter une parole qui va nous représenter, pas nous représenter dans le sens où nous montrer, mais nous présenter à nouveau notre berger. Nous vivons dans un monde qui nous dépasse. Je pense que vous aussi, vous le voyez, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et même si bien l'orgueil de l'homme lui permet de penser qu'il maîtrise tout autour de lui, nous avons, et nous pouvons surtout nous rendre compte aujourd'hui qu'en réalité, il n'est rien de tout cela. C'est vrai, non? Eh bien, nous n'avons qu'à regarder la situation désespérée dans laquelle le monde est plongé aujourd'hui et nous allons nous rendre compte que rien n'est maîtrisé. Nous vivons avec des masques, nous sommes constamment sous la menace d'un confinement. L'économie est en train de s'effondrer, les restaurants sont fermés, les centres culturels également, et même les églises, eh bien, ne sont ouvertes qu'à moitié. Et nous en sommes la preuve ce soir, puisque nous avons une partie de notre semaine, nous la faisons sur Zoom. Et tout ça à cause de quoi? Eh bien, tout ça à cause d'un ennemi invisible, quelque chose que nous ne voyons pas, qui est tellement petit, c'est vrai, mais que nous n'arrivons pas non plus à contrôler. Et malgré toute l'assurance que l'humanité a mise dans le choix de faire de Dieu une simple équation depuis des dizaines d'années, eh bien aujourd'hui, elle se retrouve complètement humiliée par la situation incontrôlable qu'elle est en train de vivre. Et désormais, eh bien, nous sommes au moins certains de deux choses. C'est que nous ne savons rien. Et la deuxième, c'est que sans Dieu, nous sommes bien petits. Et je vous rappelle ce soir, eh bien, que il y a des situations que l'homme ne peut pas résoudre sans Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que l'homme est limité. Nous sommes la création de Dieu et non pas Dieu lui-même. Et ça, c'est une grande vérité que nous avons tendance à mettre de côté, que nous avons tendance à oublier, oublier le fait que nous avons besoin de dépendre de Dieu. Écoutez, tous ceux qui pensaient pouvoir placer leurs espoirs dans la science et dans la technologie de ce monde, et il y en a, vous le savez, eh bien, aujourd'hui, ils peuvent se rendre compte qu'ils placent leur espoir dans quelque chose de fragile et d'incertain. Et la réalité, frères et sœurs, c'est que l'humanité tout entière est humiliée par cette situation. Et ce qui m'attriste, c'est qu'au lieu de s'en remettre à Dieu, au lieu de prendre conscience de ses erreurs, eh bien, elle continue à avancer avec orgueil, pardon, sans prendre la décision de s'approcher de celui à qui tout est soumis. Et à cause de ça, eh bien, nous voyons partout dans le monde que l'état des gens se dégrade au point qu'ils arrivent à vivre dans la peur, dans la tristesse et même dans l'angoisse. Il y avait un homme à mon travail qui n'arrêtait pas de me dire que, eh bien, la joie et la paix que Dieu m'apportait dans ma vie n'étaient pas si différentes de celles qu'il trouvait lui-même dans le monde. Il trouvait cette paix et cette joie, il me racontait à travers les sorties qu'il faisait, à travers les amis qu'il avait, à travers le sport et même à travers les voyages. Et c'est vrai qu'il y a de la joie par moment. Mais depuis quelques mois, eh bien, cet homme-là n'arrête pas de se plaindre. Et il se plaint constamment du fait qu'il est en train de rentrer dans une dépression à cause de la situation que l'on est en train de vivre. Et puis, il y a quelques jours, nous avons parlé ensemble et il m'a dit: je n'arrive pas à comprendre pourquoi ton comportement à toi n'a pas changé. Il dit: je ne comprends pas parce que lorsque je t'entends parler, eh bien, j'ai l'impression que tu ne vis pas la même chose que moi. Alors, à ce moment-là, son cœur était ouvert et j'ai pu témoigner que, eh bien, je vivais exactement la même chose que lui et nous vivons tous la même chose que lui. Sauf que nous, eh bien, nous avons Dieu à nos côtés. Et ça change tout, frères et sœurs. Dieu, je lui disais, ne me donne pas seulement sa joie et sa paix, il ne me donne pas seulement son amour lorsque tout va bien dans ma vie, mais il le fait aussi et surtout dans les moments difficiles de ma vie. Et finalement, eh bien, quelle que soit la situation que je vis, j'arrive à garder courage parce que je sais que Dieu est à mes côtés pour me guider et pour m'aider à avancer. Et j'ai même rajouté à cet ami, je lui ai dit: tu vois, aujourd'hui, tu comprends ce que je te disais il y a longtemps. La paix et la joie de ce monde sont des sentiments qui sont passagers et éphémères. Frères et sœurs, nous ne devons jamais nous laisser gagner par la peur, la tristesse ou l'angoisse. Mais nous devons nous rappeler que Dieu reste à nos côtés dans les situations difficiles. Et nous devons aussi nous rappeler que nous nous en sortirons forcément vainqueurs si nous confions en lui et si nous marchons selon ses commandements. Parce que ça aussi, c'est important. Dieu est notre guide et nous devons le suivre pour y arriver. C'est aussi simple que ça. Dieu nous aime et je pense que ça, vous le savez tous ce soir, que Dieu nous aime. Seulement, il arrive par moments que les épreuves de la vie nous fassent oublier ce qu'il est réellement pour nous et qu'il nous fasse même oublier ce qu'il veut faire avec nous. Mais je vous rappelle ce merveilleux texte que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains au chapitre 35. Il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Il dit « Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ?» Il dit « Ou même la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Et au verset 38, il va rajouter « En effet, il dira, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, il dira, ni même aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Que ce sont des versets merveilleux. Et voilà pourquoi, eh bien, nous allons diriger nos regards dans le livre des Psaumes pour lire un merveilleux psaume qu'a écrit le roi David. Un roi qui aimait Dieu de tout son cœur, c'est vrai, mais un roi qui avait aussi cette particularité, de toujours se rappeler que Dieu l'aimait encore plus que ce qu'il pouvait l'aimer. Il savait parfaitement, David, eh bien, que tant qu'il continuerait à confier sa vie entre les mains de Dieu, Dieu veillerait à ce qu'il reçoive le meilleur pour son âme. Et j'espère que nous sommes tous conscients de ça ce soir. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes, au chapitre 23 et au verset 1 à 3. Psaume 23, 1 à 3. Il est écrit quelque chose que nous connaissons tous, que nous avons lu eh bien, à de nombreuses reprises, je le sais. Mais il est dit « L'Éternel est mon berger ». Il est dit « Je ne manquerai de rien ». Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Amen. David commence ce psaume en appelant Dieu son berger. Et croyez-moi si je vous dis qu'il connaissait parfaitement le sens des responsabilités qui étaient liées au titre de berger, à ce titre qu'il va donner à Dieu. Je pense que vous savez tous que David n'est pas né roi. Durant toute sa jeunesse, David s'est occupé des brebis de son père et avec elles, eh bien, il a vécu des expériences qui l'ont marqué pour la vie. D'ailleurs, il va en parler au roi Saül, vous savez, juste avant d'aller combattre ce géant Goliath, dans 1 Samuel au chapitre 17, eh bien, il va dire « Ton serviteur gardait les brebis de son père », il dit « Et quand un lion ou un ours venait enlever une seule brebis du troupeau, il dit « Ben moi, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais de sa gueule la brebis qu'il avait prise ». Et il dira même à Saül, il dira, et s'il m'attaquait, eh bien, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais à main nue. Et puis au verset 37, eh bien, il rajoute, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il dira, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ce Philistin auquel, eh bien, vous craignez tous, celui dont vous avez tous peur, celui qui n'arrête pas d'insulter l'armée du Dieu vivant. Dieu me délivrera aussi de lui. Voilà d'où venait la force et le courage de David. David savait parfaitement que Dieu veillait sur lui et qu'il allait le protéger de ses ennemis. Et c'est aussi pour cette raison que dans le psaume 23 que nous venons de lire, eh bien, David ne se considère pas lui-même comme le berger, mais il va prendre cette position de brebis placée entre les mains de Dieu, qui est son berger. Une position qu'il avait déjà prise spirituellement depuis de nombreuses années déjà. Et finalement, eh bien, nous voyons que David restait en paix parce qu'il avait cette certitude que quel que soit l'endroit par lequel il allait passer, l'Éternel était celui qui allait veiller sur lui. David se sentait membre du troupeau de Dieu et c'est exactement ce que nous devrions nous aussi être capables de ressentir dans notre cœur parce que Jésus a dit aux pharisiens à notre sujet, il disait, j'ai encore d'autres brebis, des brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là d'Israël. Celles-là, eh bien, il faut que je les amène. Et il dira, ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et lorsque nous lisons le psaume 23, eh bien, nous ne pouvons pas nous empêcher de tourner nos regards vers la personne de Christ, parce que nous savons qu'il est ce bon berger dont David était en train de parler. Un vrai disciple n'oublie pas ce que Jésus a fait pour nous rassembler dans son troupeau. Frères et sœurs, Dieu est grand et son amour pour nous l'est tout autant. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il a offert la vie de son Fils pour notre salut. C'est un cadeau immérité qui nous rassemble tous en Jésus. Et j'espère vraiment que nous avons tous conscience de ça ce soir. Dieu a tenu les promesses qu'il nous a faites. Il les a toutes tenues. Alors, eh bien, je me pose cette question. Comment ne pas avoir une confiance totale en lui ? Comment se fait-il que souvent, nous qui le connaissons depuis de nombreuses années, eh bien, nous n'avons pas encore cette confiance totale en Jésus, en Dieu ? Même lorsqu'il est écrit « Je ne manquerai de rien ». Il est écrit dans ce psaume que nous avons lu « Je ne manquerai de rien ». Parce que ça, eh bien, c'est une dépendance envers Dieu à laquelle nous avons beaucoup de mal à nous conformer, frères et sœurs. Il faut l'avouer. Pourtant, David savait pleinement, il savait parfaitement que Dieu lui donnerait tout ce dont il a besoin aujourd'hui et tout ce dont il aura besoin, ou il avait besoin plutôt le lendemain. David ne s'inquiétait pas du lendemain. Pourquoi ? Eh bien, puisqu'il savait que Dieu veillait sur cela. Mais attention, pour pouvoir à tous nos besoins, eh bien, cela ne veut pas dire non plus qu'il va pourvoir à toutes nos envies. Et en réalité, c'est souvent ce qui gêne dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'un chrétien. Il ne faut pas confondre Dieu qui pourvoit à nos besoins et Dieu qui pourvoit à nos envies. Vous savez, nous sommes forts pour confondre, eh bien, ce que nous désirons avoir avec ce qu'il nous faut vraiment, avec ce dont nous avons vraiment besoin. Et c'est aussi pour ça que la Bible nous met régulièrement en garde contre ce type de faux raisonnement-là. Une brebis doit savoir se laisser soigner et guider par son berger, sinon elle finira par s'égarer. Et elle finira par quitter le troupeau pour prendre une direction qui va être complètement opposée à la parole de Dieu. Et nous savons que l'ennemi de nos âmes, plutôt, eh bien, il attend que ça. Il attend que ça pour venir nous dévorer. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Écoutez, Dieu connaît le besoin de ses brebis. Il connaît le besoin de toutes ses brebis. Il connaît les besoins de chacun d'entre vous ce soir. Alors, qu'il s'agisse de nourriture, qu'il s'agisse d'eau, qu'il s'agisse de repos, de protection, de restauration, de compagnie, d'encouragement, qu'il s'agisse d'une direction, de réconfort, de joie ou de paix, de bonheur, quel que soit le besoin, peu importe finalement, parce que notre berger saura forcément y répondre. Et ça, eh bien, nous devons le croire et le garder dans notre cœur. Dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 19, Paul est convaincu de la même chose. Et c'est pour ça qu'il va écrire « Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et je vous encourage ce soir à garder précieusement ces paroles dans votre cœur afin que dans les moments d'épreuve que vous allez vivre, eh bien vous puissiez vous aussi être capable de dire comme David « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, c'est important. La suite de notre verset de référence disait « Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » David connaissait le métier de berger et il savait qu'un troupeau de brebis s'épuisait lorsqu'il parcourait des kilomètres en plein soleil, surtout à travers les zones arides et désertiques qui étaient le territoire de Judée, là où il était. Mais il savait aussi que le berger était toujours présent pour veiller à ce que son troupeau puisse manger et se reposer dans une oasis, un endroit paisible, là où il va pouvoir trouver de la nourriture en abondance. Et c'est toujours bon de savoir que Dieu connaît les circonstances, écoutez bien, il connaît les circonstances et les difficultés que nous traversons dans la vie. Il sait que nous allons parfois être fatigués de marcher dans le désert de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il reste toujours disponible, et je dis bien toujours disponible, afin que nous puissions nous ressourcer pleinement dans sa présence. Il ne veille ni ne sommeille notre Seigneur. Celui qui veille sur Israël, mais celui qui veille sur nous, ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il veille constamment sur nous. Frères et sœurs, La présence de Dieu est une oasis spirituelle dans laquelle nous allons pouvoir boire, manger et nous ressourcer afin de pouvoir continuer notre marche chrétienne. Ne l'oublions jamais. Parfois, nous sommes fatigués et nous hésitons à aller vers le Seigneur, alors que, en réalité, notre repos, notre secours, notre source d'eau et de nourriture, c'est lui. Pourquoi est-ce que trop souvent, eh bien, nous évitons de plonger nos regards ou de plonger, eh bien, de prier, de passer du temps dans la prière avec lui, si nous savons qu'il va, eh bien, nous ressourcer. Peut-être parce que certaines fois, nous sommes tellement préoccupés par les choses du monde que nous arrivons à en oublier que Dieu est la source de toutes nos bénédictions, que Dieu est la source de toute restauration pour notre vie. Et, eh bien, il est bien de s'en rappeler aujourd'hui. Parce que sans nourriture et sans eau, sans repos non plus, le peuple de Dieu périt. Voilà pourquoi, jour après jour, eh bien, Dieu va nous inviter à nous fortifier par l'intimité d'une relation personnelle avec lui. C'est important d'avoir sa relation avec Dieu, une relation personnelle. Il y a les moments à l'église, il y a des moments avec des frères et des sœurs dans la prière, mais il y a nos moments personnels, frères et sœurs, et nous ne pouvons pas, eh bien, nous en passer. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34 et au verset 15, il me semble, il est écrit « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dira le Seigneur l'Éternel. » C'est ça qu'il dit. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il dira « Je suis le pain de vie. Quiconque vient à moi n'aura jamais faim, et quiconque croit en moi, dit, n'aura jamais soif. » Voyez, c'est lui qui ressource le chrétien, c'est lui qui ressource, eh bien, ses enfants. Dieu est capable de faire des choses incroyables pour nous, même dans le désert, frères et sœurs. Et il suffit de regarder l'exemple de ce qu'il a fait avec les Hébreux après leur sortie d'Égypte. Pendant 40 ans, le peuple n'a jamais manqué de rien. Citez-moi un endroit dans la parole de Dieu où le peuple hébreu a manqué de quelque chose dans le désert. Certes, ils n'avaient peut-être pas, eh bien, toutes ces choses qu'ils avaient en abondance en Égypte, mais je parle de ne manquer de rien. Ils avaient de la nourriture, ils avaient de l'eau, ils avaient du repos et ils avaient accès à la parole de Dieu. Ils avaient accès à la présence de Dieu qui était là jour et nuit pour veiller sur eux. Le peuple hébreu n'a jamais manqué de rien. La manne chaque matin, frères et sœurs. Et Dieu était capable de faire couler de l'eau pure des rochers. Vous imaginez un petit peu, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, Dieu est là et nous ne manquerons de rien. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, il nous suffit de nous mettre à genoux devant Dieu pour recevoir eh bien, ce que nous avons besoin. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 3, il va dire « Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. » Il dira « Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. » Et il dit, en effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et regardez ce qu'il est écrit, il disait, et ce rocher était Christ. Quelle grâce, Seigneur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une preuve évidente que Jésus veille sur son troupeau tel le berger divin. Il est ce rocher spirituel auquel nous pouvons aller boire, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Nous appuyer, vous savez, lorsqu'une tempête surgit dans notre vie. Il est ce rocher. Alors, eh bien, je sais bien que de nos jours, nous voyons beaucoup de croyants insatisfaits. Nous voyons des croyants qui sont agités, des croyants qui sont inquiets. Mais le problème ne vient pas du fait que Dieu a échoué en tant que berger, non. Le problème, c'est que les brebis se sont éloignées de la communion journalière, qu'ils étaient censés avoir avec Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je te le dis, si tu es agité, si tu es inquiet de voir tout ce qui se passe autour de toi, eh bien, Dieu voudrait te rappeler ce verset d'Ésaïe 41:10 que nous avons tous mémorisé dans notre cœur et qui dit « Ne crains rien ». Pourquoi ? Eh bien, parce que je suis avec toi. Dieu va dire « Ne promène pas de regard inquiet ». Pourquoi ? Parce que je suis ton Dieu. Et il dira « Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante ». Ça, frères et sœurs, eh bien, ce sont des paroles incroyables que nous devons garder chaque jour dans notre cœur. Parce qu'il est notre berger, il est ce merveilleux berger qui est capable, eh bien, de nous donner, de nous soutenir et de nous restaurer. Pour moi, me reposer dans les verts pâturages me fait aussi penser à ce qui nous attend pour l'éternité. Et je pense que pour vous, c'est la même chose. Dieu veut nous faire reposer dans les verts pâturages de la nouvelle Jérusalem. Cette Jérusalem céleste. Alors, eh bien, il nous a envoyé un bon et un véritable berger pour nous sauver, mais aussi pour nous guider. Et ça, frères et sœurs, c'est un point très important que je soulève. Pourquoi? Eh bien, parce que le rôle du berger, c'est de nous guider. Et le nôtre, en tant que brebis, c'est de le suivre, et seulement de le suivre. Et lorsque je parle de le suivre, eh bien, je parle évidemment de suivre ses commandements, de suivre les commandements qu'il nous a enseignés, ces commandements qu'il a laissés à notre disposition dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, il est important de comprendre que personne ne peut prétendre suivre Jésus-Christ s'il change les commandements et la direction qu'il nous demande d'emprunter. Personne. Et cela, quels que soient nos faux raisonnements, quel que soit ce que le monde pense, quel que soit ce que les gens qui nous entourent vont penser même, il nous est impossible de suivre notre berger si nous changeons ses commandements. Nous ne devons pas adapter les commandements de Christ à la pensée du monde, mais nous devons adapter notre manière de marcher dans le monde aux commandements de Christ, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous savez, si la Bible nous demande de suivre les commandements de Jésus fidèlement, c'est justement pour que nous évitions de prendre un chemin différent que celui qui nous permet d'accéder au paradis promis. Et je pense et j'espère que nous voulons tous y aller dans ce paradis. Moi, le premier, j'aspire à aller dans ce paradis-là. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier que Jésus a dit « Je suis la porte ». Il a dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Vous entendez ? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il dit « Il entrera, il sortira et il trouvera quoi ?» Eh bien, il trouvera des pâturages. Ça, c'est la promesse. Mais, encore une fois, il dit « Je suis la porte ». Voilà pourquoi celui qui reste fidèlement ancré en Jésus dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, eh bien, va trouver des verts pâturages éternels dans la maison de Dieu. Et ça, c'est une promesse qui nous a été faite et une promesse que Dieu va tenir. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu tient toutes ses promesses. Il n'y a pas une seule promesse que Dieu vous a faite et qu'il ne tiendra pas. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils d'homme pour se repentir. C'est la Bible qui le dit. Et nous l'avons vu à travers la parole de Dieu, que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. C'est comme ça. Vous savez, nous voulons tous, et en tout cas je l'espère, être auprès de Dieu pour l'éternité. Pourtant, tout le monde ne veut pas respecter les prescriptions que Dieu nous a laissées. Tout le monde ne veut pas suivre les commandements de Dieu, c'est une réalité. Et il faut, eh bien, ouvrir les yeux. Peut-être que, eh bien, vous l'avez vu, vous l'avez compris à travers ces choses qui se passent aujourd'hui dans certains mouvements. Tout le monde veut être avec Dieu. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent, eh bien, placer les choses de Dieu à leur manière. Mais en agissant de cette façon, je vous assure que nous allons sortir des bénédictions, ces bénédictions qui nous étaient accessibles en Jésus. Et dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21 et 23, Jésus a dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » C'est Jésus qui parle. Il va dire « Mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là seul rentrera. » Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, c'est ce que la Bible dit, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est la parole de Dieu qui le dit. Et je voulais commenter les versets qui suivent, mais je vais simplement les lire, car ce sont des paroles de Jésus, et Jésus est bien plus apte que moi à nous enseigner. Au verset 24, Jésus va continuer. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, Matthieu 7, 24, il va dire, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Il dira, « Celui-là, sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dira, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. » Et elle n'est point tombée, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur Christ. Et au verset 26, il dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, dit la parole de Dieu, qui a bâti sa maison sur le sable. Il dira, la pluie est tombée, les vents sont venus, ils ont soufflé et ont abattu cette maison. » Et cette maison, la Bible dit, est tombée et sa ruine a été grande. Ce soir, Dieu ne cherche pas forcément à nous apprendre de nouvelles choses, mais il cherche à nous rappeler qu'il ne faut pas simplement piocher dans les Écritures ce qui nous intéresse. Nous devons tout lire, tout apprendre, tout comprendre et tout pratiquer. Alors, bien entendu, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Il y a le Saint-Esprit pour nous aider. Et même si c'est difficile, c'est vrai, même si plus le temps avance et plus ce sera difficile, eh bien, ce que Dieu veut, c'est que nous obéissions à sa parole et non pas à de vaines doctrines ou à des commandements que nous allons décider de mixer avec notre culture ou avec notre manière personnelle de penser ou même avec la manière de penser de ce monde. Paul dira clairement à Timothée au chapitre 4, il va lui dire « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à quoi ?» Il dit « à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons ». Et ne pensez pas, frères et sœurs, je vous le dis, ne pensez pas qu'une doctrine de démon se voit venir gros comme une maison. Elle commence à rentrer dans notre cœur par de toutes petites choses, et puis elle va finir par nous emporter avec elle sur un chemin qui ne mène pas à la vie. Écoutez, je ne dis pas que nous ne ferons jamais d'erreur, mais je dis que nous devons nous appliquer à avancer à l'image du bon berger, et surtout, nous devons garder ses commandements tels qu'il nous les a enseignés. Proclamer que nous tenons la parole de Dieu dans notre cœur est une bonne chose, c'est vrai. Mais il faut faire attention qu'avec le temps, nous ne fassions pas tomber quelques pages de cette parole, comme beaucoup sont en train de le faire aujourd'hui. David était capable de dire « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Est-ce que nous aussi, nous sommes capables de dire « Seigneur, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas changer de direction, afin de ne pas la changer et de continuer à te suivre, Seigneur. » Nous aimons, parce que c'est vrai, nous aimons entendre que Jésus nous aime. Nous aimons entendre que son sang nous purifie de tout péché. Nous aimons quand il est prêché le pardon ou quand il est dit que si ton cœur te condamne, eh bien Dieu est plus grand que lui. Nous aimons entendre que Dieu nous bénira chaque jour pour qu'il ne nous manque rien. Tout ça, nous l'aimons entendre cela. Nous aimons entendre que Dieu guérit totalement n'importe quelle maladie. Et c'est vrai, je vous le dis, c'est vrai, c'est véritable. Mais ce que l'on oublie trop souvent, ou ce que l'on aime moins méditer, ce que l'on aime moins entendre, eh bien, ce sont les versets qui nous enseignent que tout cela est possible à condition d'avoir une foi véritable en Jésus-Christ, à condition de s'appliquer à lui ressembler, à condition de garder notre relation avec lui, de méditer chaque jour sa parole et de le faire passer en premier dans notre vie. Proverbes chapitre 3, verset 6 va nous dire « Dans tout ce que tu fais, mets Dieu en premier et il dirigera et couronnera tes efforts de réussite. » Frères et sœurs, n'oublions pas ce verset. Si nous appliquons tout cela dans notre vie, eh bien alors nous allons réussir, c'est vrai. Mais surtout, nous allons éviter de tomber dans le piège des fausses doctrines plaisantes ou même de nous laisser entraîner par de faux bergers, parce qu'il y en a des faux bergers, des mercenaires, comme Jésus les appelait. Il n'y a qu'un seul véritable berger que nous devons suivre. Et c'est celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous sur la croix. Celui, eh bien, par le nom duquel tout est possible aujourd'hui. Notre texte de référence disait « à cause de son nom ». Et je me réjouis de savoir que tout est possible par le nom de Jésus. Paul va dire, il va dire de Jésus qu'il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il est au-dessus de toute domination, il dira, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et de tout nom qui peuvent se nommer, dit la parole de Dieu. Et il dira, il rajoute, non seulement dans ce siècle présent, celui que nous vivons, mais encore dans les siècles à venir. Et il dit, le Père a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors même si de nos jours, le monde considère la croix comme une folie, nous ne devons jamais oublier qu'elle est en réalité la démonstration de l'amour, de la miséricorde et de la puissance de Dieu dans nos vies. Sans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, eh bien, nous serions tous perdus. Sans la croix, la foi, l'espérance disparaissent de nos cœurs. Et même si ce qui s'est passé à Golgotha est horrible, à vision humaine, cela reste pour nous le moment où le salut est devenu accessible à celui qui croit en Jésus-Christ. Et finalement, cela fait de ce qui s'est passé sur la croix le moment le plus précieux et le plus réjouissant que le monde n'ait jamais connu. Chaque jour, Nous devrions être conscients que nous devons notre salut à Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas seulement dit « Je donnerai ma vie pour mes brebis », mais il l'a fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et je pense que c'est pareil pour vous, c'est pourquoi nous voulons placer toute notre confiance et toute notre espérance en Jésus. Il y a encore énormément de choses à dire là-dessus, mais je vais finir avec ça. Tout à l'heure, j'ai dit que nous devions nous efforcer de suivre le bon berger. Mais pour pouvoir le suivre correctement, il va falloir apprendre à reconnaître sa voix parmi toutes les autres voix que nous pouvons entendre aujourd'hui, parce qu'il y en a des voix. Et le problème, c'est que pour pouvoir reconnaître sa voix, il va forcément falloir passer du temps avec lui. Et là encore, c'est un point sensible qu'on touche, un point sensible de la relation que le chrétien doit avoir avec Dieu. Nombreux sont les chrétiens qui aujourd'hui ne passent plus assez de temps avec Dieu, des chrétiens qui se contentent de seulement quelques minutes par jour avec lui. Mais le problème, c'est que de cette façon, il n'est pas possible de le connaître comme nous le demande la parole de Dieu. Nous devons absolument prendre le temps de découvrir les différentes facettes de sa personne. Nous devons véritablement prendre le temps d'avoir des moments d'intimité personnelle avec lui. Parce que sinon, je peux vous assurer que vous ne serez pas capable d'interpréter correctement sa volonté. Lorsque vous allez avoir besoin d'une direction, vous ne réussirez même pas à discerner sa voix. Dans le psaume 24, au verset 4 à 5, le roi David a écrit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Il dit « Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » David savait qu'il était important de connaître Dieu pour être capable de discerner sa voix, pour être capable d'arriver à accomplir du mieux possible sa volonté. Mais voilà, pour que Dieu nous fasse connaître ses voies et pour qu'il nous instruise, il faudra forcément passer du temps avec lui. Et ce soir, il serait bon de se poser quelques questions. Connaissons-nous vraiment Jésus comme nous devrions le connaître? Prenons-nous vraiment le temps de le découvrir, de découvrir les facettes, les différentes facettes de sa personne? Savons-nous véritablement qui il est? C'est d'ailleurs une question que Jésus va poser à ses disciples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, Jésus va dire à ses disciples, il va dire, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Ses disciples le suivaient déjà depuis un moment. Ils étaient toujours présents. Ils étaient là quand Jésus faisait des miracles. Ils écoutaient même les enseignements de Christ. Pourtant, seulement un seul d'entre eux a su reconnaître véritablement que Jésus était le Fils de Dieu. Un seul. Et c'est peut-être eh bien notre cas ce soir. Peut-être que nous sommes chrétiens depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Peut-être que nous connaissons le nom de Jésus, que nous avons vu des miracles et des guérisons, mais que pour autant nous ne sommes pas complètement conscients de qui il est et de la place qu'il doit avoir dans notre vie. Parce que ça, c'est quelque chose que le monde va essayer de prendre dans votre cœur et de changer en un faux raisonnement qui dit que vous passez assez de temps avec Dieu. La réalité, c'est que c'est beau de dire que nous aimons passer une heure avec Dieu plutôt que d'en passer mille ailleurs. Mais encore faut-il le vivre. Vous savez, les actes que nous allons faire vont découler plutôt de la foi que nous avons en Christ. Et si nous avons cette foi de dire qu'il est mieux de passer une heure avec lui, eh bien, montrons-le, faisons-le. Vous savez, l'apôtre Pierre va dire à la fin de sa vie, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est le conseil qu'il nous donne. Il a vécu, il a prêché, ils ont fondé des églises, ils ont eu des péripéties avec des grandes victoires de la part du Seigneur. Et à la fin, il disait, croissez, croissez dans la grâce, croissez dans la connaissance de notre Seigneur, parce qu'il sait que nous avons besoin de cela. Il connaissait l'importance d'apprendre à connaître Jésus. Et même s'il savait que la vie d'un homme ne pouvait pas suffire à connaître notre berger, cela n'était pas pour lui un prétexte pour ne pas le découvrir chaque jour de plus en plus. Vous savez, j'ai connu un pasteur qui, avant de mourir, disait « J'ai prêché, j'ai eu un ministère qui était de plus de 60 ans et aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai fait qu'effleurer la parole de Dieu. » Alors, prenons ce temps avec Dieu. Apprenons à le connaître de plus en plus afin eh bien, de pouvoir comprendre qui est notre bon berger. C'est bien de dire que nous avons un bon berger, c'est bien de savoir qu'il nous protège, mais apprenons à le connaître et suivons-le. Suivons-le. Où qu'il nous demande d'aller, suivons-le. Ne nous posons pas de questions. N'essayons pas de réfléchir d'une manière humaine lorsque Dieu nous demande quelque chose. Eh bien, par la foi, nous allons faire, vous savez, comme Abraham qui disait « Sors de ta patrie », eh bien, nous aussi, si Dieu nous demande quelque chose, si notre berger nous demande quelque chose, par la foi, nous allons le suivre. Parce que nous savons que, quel que soit l'endroit où il vous demandera d'aller, Dieu ne vous amènera jamais dans un endroit qui sera mauvais pour vous. Je vous assure, nos raisonnements nous amèneront dans quelque chose qui sera mauvais. Mais Dieu, lui, nous amènera uniquement vers de verts pâturages. Voilà.
Merci Franck. On va peut-être deux ou trois peuvent lever la voix encore et prier.